Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être et au mieux vivre. Tout de suite, on ouvre donc avec Mélanie notre table des tendances. Et ça commence comme toujours, vous le savez, par de la gastronomie. Et aujourd'hui, ce sont les conseils culinaires du chef Merwan que l'on va écouter. Merwan, bonjour, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui?
Bonjour, aujourd'hui, on va parler de la girole.
Ah, j'adore.
Vous avez mis vos bottes, vous êtes allé en ramasser ce matin, c'est ça?
J'ai envoyé quelqu'un les ramasser pour moi parce que je suis une petite nature.
Ah,
mais
oui. C'est dangereux la forêt, vous avez raison.
Les forêts parisiennes sont mal famées.
Voilà, c'est ça, parfait. Ça promet d'être délicieux. En tout cas, on a hâte d'avoir le mode d'emploi. Ensuite, ce sera à vous de jouer, Soizic Belin, avec une chronique ce midi, ambiance zen, hein, c'est ça.
Tout à fait. Je vais vous parler de gymnosophie. Mais qu'est-ce donc que la gymnosophie? Vous en saurez un petit peu plus dans quelques secondes.
Ah, j'adore ce teasing. Et puis enfin, on terminera ce tour de table avec vous, Edouard Dutour. Bonjour. Je crois que vous allez nous donner 2-3 conseils pour embellir nos intérieurs.
Ben oui, on va décrypter ensemble les 3 grandes tendances déco de la saison 2021-2022, un peu les horizons, comme dirait Edouard Philippe, horizon décoration, pour savoir comment vous allez décorer votre salon l'année prochaine.
Ah, génial, merci Edouard, on vous retrouve dans quelques minutes avec ces tendances déco, mais tout de suite on va passer à table, dans Bien fait pour vous.
À la fin, je crois.
Les tendances.
Excusez-moi, j'ai faim.
On démarre la séquence tendance de ce magazine. On va commencer par ce qui nous fait du bien par-dessus tout, surtout à Julia. Vous avez entendu son enthousiasme. Manger, c'est la vie. Déguster, se régaler. Et c'est vous, Merwan, hein, chef, notre chef en chef, qui allez nous mettre en appétit.
Chef en chef.
Ouais, c'est Julia qui a trouvé ça.
Oui, c'est moi qui l'ai écrit.
Chef en chef.
Trop d'honneur, trop d'honneur.
Voilà. Bon, on parle de girolles aujourd'hui.
Qui a fait du latin autour de la table?
Bah, moi.
C'est vrai?
Ouais.
Donc,
Rosa,
vous savez
Rosa,
comment.
Rosam.
Rosae, Rosam, Rosorum.
Ouais.
Donc vous savez comment on dit girole, le nom latin de la girole?
Girolum?
Girolus? Non, je sais pas.
Non, Soizic?
Je sais pas.
Edouard?
Oh là là, pas du tout.
Alors, moi non plus, mais du coup, j'ai
il est en train de chercher sur Internet.
Cantarellus Sibarius.
Ben voilà, on se couchera moins bête ce soir.
C'est
hein.
Mieux girole.
Ouais, je préfère girole.
Alors, je vous ai fait des petites préparations. Là, alors, je voulais vous faire une chronique sur le cep. Parce que c'est le début
bah oui,
de la saison.
Vous avez changé, je dis la vérité à nos auditeurs, il y a à peu près 10 minutes, on a reçu un texto qui disait finalement il nous parle de girole.
Et en fait, le primeur à côté de chez moi, il n'a pas reçu de cèpe. Alors j'ai dit, on va parler de la girole. Et vu que c'est la fin de la saison de la girole, ça commence, on va dire, à mai jusqu'à fin octobre, voire début novembre.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a plus trop de saison, hein, ma bonne dame. Mais du coup, j'ai décidé d'honorer la girole aujourd'hui. Alors la girole, on la trouve dans les bois, dans les forêts.
J'en ai jamais trouvé. Je suis partie cueillir des champignons un paquet de fois, ramasser
des
champignons.
Et en fait, il y a des coins,
faut
connaître,
hein,
parce que la girole, elle pousse souvent tous les ans au même endroit. Mais faut savoir parce que les gens.
Personne m'a donné les coins.
Voilà, il y a des coins à girole, il y a des secrets et les gens, en règle générale, donnent pas trop leurs secrets. La girole, on connaît tous, c'est ce petit champignon avec la tige bien ferme, bien fibreuse.
Orange.
Et le chapeau, jaunâtre, orange, mais avec une chair blanche. Et le chapeau, souvent en forme d'entonnoir. Mmh. Alors à la maison, si vous ramassez des girolles ou si vous en achetez, c'est quand même plus facile. Déjà, bien sûr, privilégiez la girole française. On en voit beaucoup de la girole et d'autres champignons qui viennent des pays de l'Est.
Moi, toujours français, les champignons.
Voilà, c'est mieux français,
en
bien
bois,
sûr.
Pas beaucoup, on a le droit ou pas du tout?
Alors, vaut mieux l'acheter fraîche et faire ses bocaux soi-même. On peut très bien les faire en pickles, comme des cornichons.
Beaucoup, ils viennent sûrement d'Ukraine, hein. Enfin, je ne sais pas, mais bon.
Julia, vers 3h30 le matin, des bocaux comme
non,
ça.
Non, mais moi, je suis nulle en cuisine, donc j'attends avec impatience de savoir comment on cuisine
Julia,
la girole.
Écoutez, c'est très simple. Donc, comme l'a dit Edouard, on peut faire nous-mêmes ses propres bocaux. Qu'importe l'utilisation de la girole, ce qui est important, déjà, c'est pas de la faire tremper dans l'eau pour la laver. L'astuce, c'est de couper le bout du pied qui est en contact avec la terre. Et après, il y a plusieurs écoles. Soit on le gratte avec la pointe d'un couteau, soit un petit linge humide, soit un pinceau, soit les petites brosses qu'on utilise pour laver les ongles.
Et
pour
donc, au bout de 6 jours et demi, vous aurez des girolles. Voilà.
C'est mieux de faire ça aux autres. Hein, si vous avez des enfants, vous leur faites faire ça l'après-midi, ça va les occuper. Mais voilà, en fait, les girolles, comme tous les champignons, c'est comme des éponges. Si on les met dans un bassin d'eau froide...
Moi, j'avoue, je les fais tremper, mais le problème, c'est qu'après, ça perd beaucoup d'eau aussi dans la casserole.
Ouais, et surtout, ça va se gorger d'eau et ça va perdre son goût. Alors moi... Vraiment, pour que je les lave à l'eau, il faut vraiment qu'ils soient très sales. Sinon, on les gratte, on les frotte avec un petit pinceau. Et après, dans une poêle avec un filet d'huile bien chaud, on les fait rôtir.
Huile d'olive ou huile...
Alors moi, je suis pro beurre, mais voilà, en fonction de la région où on est, en fonction de ses goûts. Soit huile d'olive ou alors une huile de noisette qui va
moi,
très bien se marier.
Moi, je mets les deux, vous savez quoi? Je mets de l'huile d'olive et du beurre.
Et ben, c'est une bonne astuce pour ne pas faire brûler le beurre, Mélanie.
C'est vrai?
Pour
ne
pas faire brûler le beurre, soit on fait du beurre clarifié, c'est-à-dire on le fait fondre tout doucement. et le gras va se séparer du petit lait. On garde que le gras, donc c'est la partie jaune, et ça, ça brûlera jamais.
Bon, c'est juste parce que j'aime les deux, j'arrive pas à choisir. Voilà.
Si vous aimez les deux, vous faites ça. Sinon, on les fait poêler avec un filet d'huile, du beurre. Pas trop, faut garder un petit croquant. Et à 3 quarts de cuisson...
Ça fait combien de temps, quoi? 10 minutes à peu près?
Oula, c'est beaucoup trop, 10 minutes,
non, c'est trop. Combien alors? 5
30 3 secondes.
Ah, c'est peu.
Ouais, 30 secondes.
Elles sont presque cuits, vos girolles, en fait.
Il faut les garder, un tout petit peu croquantes.
C'est très dur, toujours, c'est ou trop ou pas assez, c'est assez...
Non, en fait, l'astuce, c'est de les garder un peu croquantes. Et en fin de cuisson, comme ça, on balance une échalote ciselée avec un tout petit peu d'ail et du persil ou de la ciboulette.
En fin de cuisson.
En fin de cuisson, d'accord, pour garder vraiment la fraîcheur de la ciboulette et de l'échalote. Donc là, je vous ai fait une petite recette rapide.
Ah oui.
Je vous ai fait une petite poêlée de cèpe, échalote, ciboulette avec une pointe d'ail, piment d'Espelette, un œuf mollet, des croûtons de brioche. Et en fait, quand vous faites poêler des champignons, il y a beaucoup de jus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le champignon, c'est un produit qui est très aqueux. En fin de cuisson, on l'égoutte dans une passoire. On va recueillir plein de jus. Ce jus, on ne le jette pas.
Ah,
on le remet dans la poêle de cuisson ou dans la casserole. On le fait réduire avec un trait de crème. Ça va s'épaissir, ça va faire une sauce nappante. Et après, on vient réarroser les champignons.
Oh là là, mais tous ces jus de girolles que j'ai jetés, moi, c'est dommage. On va faire une sauce, en fait.
Et en cuisine, on ne jette rien, on recycle tout. Du coup, là, ce matin, j'ai fait poêler. Enfin, ce matin, il y a une heure, c'est encore un peu tiède. J'ai fait poêler une poêlée de girolles.
Comme vous nous l'avez décrite, la recette, là, c'est ça?
Exactement. J'ai fait cuire des œufs mollets. Donc, les œufs mollets, quelqu'un sait combien de temps ça cuit?
C'est 6 7
5 minutes 30.
Ah, wow, 5 minutes.
Vous étiez des œufs à température ambiante. S'ils sont au frigo, c'est vrai qu'on va les cuire 6 minutes parce qu'ils, bien sûr, à cœur, ils seront plus froids. Sinon, 5 minutes à partir d'ébullition. Très important, on les balance après dans un récipient avec de l'eau très froide, voire même on peut mettre des glaçons.
Ça arrête la cuisson.
Pour stopper la cuisson, pour ne pas se brûler les doigts. Et la petite astuce pour écaler un œuf mollet, alors on le casse un tout petit peu pour le fêler et on le remet dans la bassine d'eau.
Oh.
L'eau, elle va pénétrer dans toutes les fêlures,
elle
va rentrer sous la coquille et ça va être plus facile à écaler.
Mais que d'astuces avec vous aujourd'hui, c'est incroyable.
Voilà, que d'astuces et maintenant que de régalade.
Ah, bah j'espère. Hein, oui.
Je pense que sur votre casquette, je le dis pour les auditeurs, c'est marqué travaille à l'école, sinon tu vas finir cuisiner.
Ah,
je crois
que
vous avez bien fait.
C'est c'est ironique. Hein.
On veut tous finir Merwan, donc ne travaillez plus à l'école.
Non, mais ouais, la cuisine,
donc
c'est vrai.
Donc on fait un œuf mollet et puis et on met notre petite poêlée autour.
C'est ça, un œuf mollet, un œuf au plat, des œufs brouillés. Ceux qui maîtrisent le siphon, on peut aussi très bien faire des œufs brouillés, pardon, qu'on mixe avec un tout petit peu de crème. On passe à la passette très fine ou au chinois
et tamis. Là, c'est le niveau 2,
quoi.
C'est le niveau un peu supérieur.
On met ça en siphon.
Edouard, le siphon, vous maîtrisez? Non,
je suis très siphon, moi.
Un siphon, les petites marionnettes. Du coup, là, je mets les girolles dans le fond de mon bol.
Voilà.
Ensuite, j'ai l'œuf mollet qui est encore un peu tiède. Alors, l'œuf mollet, on le conserve dans une boîte avec de l'eau. Comme ça, ils ne se cognent pas entre eux, ils ne s'explosent pas.
On va faire une petite photo de ce plat une fois qu'il est bien dressé. Comme ça, on va déguster pendant la pub, parce que ça va arriver justement.
En plein milieu.
On va vous faire des photos pour Instagram pour vous montrer ce plat que vous pouvez vraiment reproduire chez vous. C'est tout simple.
Et ça m'a l'air très simple. Merci beaucoup, Merwan.
Ouais, merci, Merwan, pour cette nouvelle découverte culinaire ce midi et surtout pour vos conseils pour qu'on puisse nous aussi, chez nous, jouer au chef cuisinier et régaler nos proches. On va se mettre en position du lotus à présent pour digérer tout ça. La chronique de Soizic Belin, dans un instant, va nous initier à la gymnosophie, une discipline qui associe travail du corps et de l'esprit. Et enfin, Edouard Dutour, pardon, va nous présenter les tendances déco du moment, les plus sympas pour embellir nos intérieurs sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi et notre tour de table des tendances se poursuit avec notre bande de chroniqueurs de choc. L'ambiance est très bonne et la bouche est pleine.
De girolles.
On partage nos meilleurs bons plans avec vous. Alors à présent, on va se détendre un petit peu avec vous, Soizic Belin. Bonjour, vous allez nous amener
elle
vers
un
monde...
Elle n'a même pas goûté ses girolles parce qu'elle a parlé.
Elle ne peut pas, la chronique. Vous allez nous amener vers un monde plus zen, un monde où on se mettrait tous à la gymnosophie. Moi, je veux bien, mais je ne sais pas ce que c'est.
Oui, alors j'ai testé la gymnosophie cette semaine. Kezako. Alors je vois vos têtes que je vous ai totalement perdu. C'est un mix
entre... c'est tout, vous inquiétez pas.
Ah d'accord, non, parce que je me disais, c'est un mix entre curiosité et qu'est-ce que c'est qu'encore cette petite chose. Eh bien, cette petite chose veut avant tout allier deux pratiques qui, après réflexion, me semblent tout à fait se mêler avec harmonie. C'est le yoga et la philosophie. Allier une discipline de l'esprit à une pratique physique afin de réconcilier ces deux parties de nous qui ont tendance à se scinder de plus en plus. Le but sera donc de se réconcilier avec soi-même, tant physiquement que spirituellement, et de mettre en pratique le cultissime « Connais-toi toi-même » de Socrate. Alors il faut rappeler à nos auditeurs qui iraient googliser le terme « gymnosophe » qui ne date pas d'aujourd'hui. Il servait à désigner ces sages nus, ces philosophes de l'Égypte ancienne. Alors je suis allée à la rencontre de celle qui a ressuscité le terme, Anne Bouillon, pour savoir pourquoi cette aventure.
J'ai mis en lumière le concept de gymnosophie pour rappeler que on avait en Grèce antique des sages nus qui étaient donc des gymnosophes qui pratiquaient une forme de méditation et qu'en vérité le yoga fait partie de nos habitudes occidentales depuis très longtemps. Donc ce que je veux mettre en lumière aussi, c'est que nous pouvons pratiquer ce yoga-là en utilisant les ressources spirituelles, mythologiques, philosophiques que nous avons accumulées depuis la Grèce antique, c'est-à-dire utiliser le savoir pour le transformer en compréhension de soi-même.
Soizic, alors comment se déroule une séance de gymnosophie? Parce que bon, le yoga, la plupart d'entre nous, Edouard, je sais pas, vous avez testé déjà?
Non, mais là, j'ai entendu qu'il fallait être tout nu si on voulait faire comme les philosophes.
Non,
obligé d'être à poil ou...
Non, il faut être vêtu, justement.
Okay. Mais Rouen est prêt à commencer. Alors, expliquez-nous comment ça se passe.
Alors, c'est simple. Comme pour un cours de yoga, car c'est avant tout une pratique yogi, il faudra une tenue adéquate, un tapis, jusque-là, rien de nouveau. Donc, n'ayez pas crainte, hein, contrairement aux gymnosophes antiques, personne ne sera nu à ce moment-là, parce que pour ce qui est de la philosophie, pas la peine de venir non plus avec l'ouvrage de votre philosophe préféré. C'est Anne qui mène le cours. Alors, va-t-on philosopher sur un concept? Va-t-on pousser une réflexion et en même temps enchaîner quelques asanas? Cette pratique est-elle aussi destinée à ceux qui ne sont pas très souples et qui n'ont pas fait un bac L? Réponse en son.
Un cours de gymnosophie, c'est les postures de yoga dynamique, du vinyasa yoga, donc la victoire sur l'ego. Donc là, je trouve qu'on est bien dans les problématiques occidentales. Victoire sur l'ego, dépassement de l'ego pour pouvoir se comprendre soi-même, viser le soi. Et donc, je propose en plus des suggestions de méditation. Donc, c'est de la méditation guidée. J'utilise des citations, des textes. Je suggère des choses, en tout cas pour laisser aux personnes présentes la liberté d'aller plus loin par elles-mêmes. En fait, je crois que le yoga doit aussi s'accompagner de lectures et de théories pour faire vivre la pratique et réciproquement. Donc la théorie et la pratique ensemble.
C'est donc une discipline que l'on pratique à plusieurs pour l'énergie que ce type de cours peut dégager en groupe, mais il ne faut pas négliger la singularité de l'exercice puisque chacun sera différemment touché. Chacun trouvera des réponses énergétiques différentes selon sa problématique de départ. Ici donc pas de blabla inutile, la parole est d'or et ne vient que pour lancer des pistes de réflexion. Anne décrit son cours comme une odyssée, un voyage initiatique en somme, vers l'inconnu pour découvrir qu'on était très différent de ce que l'on pensait être.
Soizic, j'ai l'impression que vous avez eu un gros coup de cœur pour ce yoga particulier,
oui,
non?
Oui, j'avoue que ça m'a plu. Et
elle a un bébé,
Bouillon.
En même temps, elle est fatiguée, donc elle
oui,
a besoin,
j'ai besoin de ce genre de choses. Et Anne Bouillon, ce qui m'a plu chez elle, c'est son naturel. Il suffit de jeter un œil au visuel des postures sur son site et sur Instagram pour remarquer qu'ici, c'est du fait maison, mais dans le bon sens du terme, hein, ce ne sont pas des photos retouchées, filtrées, déshumanisées. Elle n'est pas ici pour vendre et faire un placement de produit. On la retrouve chez elle, entourée de son chien, de son chat. Il y a un naturel qui non seulement nous touche, mais rappelle aussi que l'on a tous en soi un potentiel de yogi. Anne est accessible et cela n'enlève en rien la qualité de son cours et son expertise lorsqu'il s'agit de philosopher. Alors l'auteur sort aussi son livre sur cette discipline ce jeudi aux éditions Almora et dans ce livre elle décompose les postures, elle y parle de son ressenti, de ce qu'elles apportent ces postures, de la philosophie qui en découle pour chaque posture, le philosophe auquel elle la lit, les émotions qu'elle y accole et la mythologie qu'elle associe. Alors si vous hésitez encore à tenter l'exercice du gymnosophe, lancez-vous dans la lecture de cet ouvrage, c'est un bon gageur pour sauter le pas. Et je signale que la gymnosophie peut se pratiquer à partir de 12 ans. Donc, c'est aussi une façon...
C'est bon pour vous, Merwan, vous pouvez.
Ouais. C'est pour les plus de 12 ans.
Pour la crise adolescence, c'est pas mal.
Tout juste.
C'est une façon d'initier son ado à la philosophie. Et je finirai cette chronique sur la citation de Deleuze, philosophe cher à notre gymnosophe, « Faire couler un peu de sang de Dionysos dans les veines organiques d'Apollon. »
Ah bah ça, c'est une belle pratique, hein, ça. Ça donne envie d'y aller, hein, n'est-ce pas?
Moi, je suis largué. Je vais retourner en cuisine, les gars. J'ai pas pipé un mot, là.
Moi, je vais retourner à l'école.
Merci beaucoup, Soizic Melin. Merci pour cette chronique bien zen. Ça fait du bien de s'arrêter parfois sur ces tendances qui nous font, qui ne vont pas trop vite et qui nous permettent de nous poser, de nous ressourcer. Alors, il y a autre chose qu'on aime bien zen, c'est notre déco intérieur, quoique certains, comme Julia, la préfèrent dynamique. Hein. Vous aimez les couleurs, vous, je
oui,
crois.
Oui, moi, j'aime bien, oui.
Voilà, c'est ça.
Bon, enfin, je dis ça, mais j'aime tout, en fait.
Voilà. Bon, on va voir justement quelles sont les tendances du moment du côté de la déco. Et pour cela, je me tourne vers vous, Edouard Dutour.
Eh oui, écoutez, on va décrypter ensemble les trois grandes tendances décoration 2021-2022. Alors c'est vrai que ça fait bizarre d'associer déco et tendance, mais maintenant c'est devenu comme la mode, comme la gastronomie, c'est-à-dire qu'il y a des grandes stars, il y a des collections qui changent chaque année, il y a des modes qui reviennent et qui s'en vont. Et puis avec le confinement et les couvre-feux, vous savez, on a été le nez collé sur notre intérieur, donc il y a eu un grand boom de la décoration chez les Français qui se sont tous passionnés
pour leur intérieur.
Voilà, pour l'intérieur.
Alors justement, Edouard, c'est quoi concrètement ces tendances? Il y en a trois, vous avez dit.
Alors, on va commencer par un truc un peu rigolo, c'est le retour de la texture. Je vais dire Kézako, comme vous, cher ami. Pourquoi on parle de texture? Bien parce qu'en fait, figurez-vous qu'on veut de la matière, on veut du relief. Pour essayer de comprendre, en fait, c'est assez
comment
simple.
Comme en cuisine, hein, finalement. Comme en cuisine, voilà. Vous aimez les textures,
c'est vrai.
Aussi.
Voilà, on veut que ce soit vivant, on veut de la texture, du relief, parce qu'en fait, on a passé nos vies devant nos écrans, devant nos tablettes qui sont tout à fait lisses, et puis face à cette toute puissance du digital, eh bien, tout d'un coup, on a envie de choses vivantes et qui accrochent. Alors concrètement, c'est quoi? Il y a le tissu bouclette, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Hein, ça
c'est
masse un peu.
Ouais, c'est pour recouvrir vos canapés, vos fauteuils, un peu comme une sorte de moquette qui fait des boucles. Il y a aussi le bois gougé, par exemple, pour recouvrir un pan de mur. Le bois gougé, c'est quoi? C'est un bois qui est martelé avec une gouge.
Ouais,
un outil assez rigolo. Autrement, on veut de la pierre. On veut, si on a gagné l'auto, du marbre brut. Voilà, on veut de la matière. On veut de la texture.
Ouais, c'est ça, et si on veut justement de la texture, pas qu'en cuisine, mais aussi dans la déco, on trouve ça où et comment?
Eh ben en fait, c'est simple, et c'est la deuxième grande tendance, on se tourne vers l'artisanat. C'est vraiment le triomphe de l'artisanat, et ça fait plaisir, parce que il y a du savoir-faire, il y a de l'authenticité, c'est l'anti-mondialisation de la déco, je dirais. Vous savez, c'est le grand magasin suédois qui fait que chez Julia, ça ressemble peut-être à chez une dentiste indonésienne. Eh bien maintenant, ça c'est fini. On a envie d'un truc.
Vous n'êtes jamais allé chez lui, chez
non,
elle.
Non, mais j'ai hâte, j'attends l'invitation. En fait, c'est fini. On rêve tous d'un truc unique, hein. On est dans une société individualiste. On veut que ce soit comme chez nous, pas comme chez les autres. On rêve de trouver un jeune menuisier qui nous bricole une petite bibliothèque, plus voir si affinité. En tout cas, on veut de l'artisanat, on veut de la main. Voilà. Et la folie de cette tendance, c'est la céramique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a partout dans la déco, dans les restaurants, chez les gens, dans les boutiques. Avant, quand on avait une copine qui voulait changer de vie, elle voulait justement faire prof de yoga. Maintenant, elle
c'est
veut
prof
ouvrir
de céramique,
un atelier.
Eh bien moi, j'ai une amie qui vient de changer de métier, elle est céramiste.
Bah, eh ben voilà.
Elle est en plein dans la tendance.
Eh ben, je vous l'avais dit.
Eh ben, c'est incroyable.
Et ça s'inscrit dans un truc plus général. Hein. C'est le retour des métiers d'art. On ne peut s'en réjouir. La ferronnerie, les vitraux, la marqueterie, du sur-mesure. Et en fait, vous savez quoi? Moi, je trouve ça chouette parce que c'est du patrimoine.
C'est
du Stéphane Bern. Je vais essayer de le caser dans toutes mes chroniques.
C'est ça, c'est clair.
Voilà, quel que soit le sujet.
Et si on veut vraiment être à la page, comme on dit en 2022, quelle est la pièce qu'il faut avoir? Je rigole parce que Mélanie s'étouffe et moi aussi.
Mélanie, moi, j'éternue, moi.
Vous avez raison de vous étouffer parce que la troisième grande tendance, c'est le retour du néo-kitsch. C'est facile, c'est pas cher, mais qu'est-ce que c'est?
C'est
simple.
Moche.
Je vais vous répondre. Vous trouvez un truc moche, enfin que vous croyez moche, ou un truc que vous croyez très ringard, et c'est ça le top avec les tendances, c'est que bien tout ça, si vous l'assumez, ça peut devenir très à la mode. Concrètement, vous mettez du léopard, hein, en coussin, en abat-jour, sur un canapé. C'est vrai que ça peut faire maison close, mais avec, par petites touches, avec parcimonie, c'est super chic en tout cas.
Non, mais pas
c'est
que du léopard,
pas
quoi.
Pas
une petite touche.
Pas une totale léopard, voilà, mais un petit peu. Autrement, on trouve un vieux meuble de famille, vous savez, je sais pas, une salle à manger Henri III.
Ma grand-mère avait des abat-jour à pompons, là, c'était
affreux. Ben ça aussi. Ouais. Mais
c'est
moi, je vous conseille de chiner ou de ressortir du grenier un vieux meuble de famille. Je vous ai style Henri III, un truc massif dont tu ne sais pas quoi faire. Vous le repeignez, et ça, c'est le néo-kitsch, et c'est branché. Ou même pire. Et je finirai avec ça.
Aïe, aïe.
Une tapisserie scène de chasse.
Ah oui, j'ai vu ça dans les magazines déco.
Voilà,
j'ai vu
du
ça.
Faux Aubusson.
Bah oui, c'est interdit.
C'est tendance.
Vous savez, on appelle ça le mauvais goût très sûr. C'est en fait chacun le sien.
Bien sûr.
Et si c'est assumé, encore une fois, c'est follement à la mode.
Vous savez que vous ressemblez beaucoup à une chroniqueuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Sophie Braffman et qui nous fait régulièrement. Et
physiquement, je ressemble
non,
à Sophie Braffman.
Non, pas du tout, mais dans ce que vous nous proposez, c'est-à-dire que Sophie est venue à ce micro
vous
nous expliquer que c'est la mode du moche dans les vêtements. Et vous voyez, dans la mode, c'est un peu le néo-moche, le néo-kitsch. Et moi, j'ai plein d'idées parce que j'ai plein de trucs moches chez moi. C'est cool.
En tout cas, si vous trouvez du moche, texturé et fait par un artisan. Ouais. Vous
on
avez
est au top,
vraiment
top. En cuisine, Merwan, le moche, non, par contre. Hein.
Le moche dans les plats, non, mais c'est vrai que les cuisines sont souvent très moches. En cuisine, surtout à Paris, les cuisines en sous-sol sont souvent
c'est
très moches.
C'est pas terrible. Ouais.
Le moche, vous, Soizic, ça vous inspire? Chez vous, il y a du moche, des objets déco moches? Non, mais je pensais justement au motif léopard et j'ai repéré dans un magasin déco cheapos ce week-end une espèce de léopard en céramique.
Ah oui, alors carrément, un léopard en céramique. Ouais,
ouais, ça, c'est et je me suis dit que c'était si moche que ça pouvait
être beau.
Oui.
J'ai vu, on veut associer des choses. Yoga, philosophie, céramique, léopard, je sais pas, on veut faire des
associations.
Il y a un truc, il y a une bonne mayonnaise qui, ouais, qui se forme.
Je le sens. Hein.
Merci beaucoup, Edouard. Merci à tous les trois pour ces bons plans, ces conseils culinaires ou même déco. On a été de découverte en découverte aujourd'hui. On vous retrouve très bientôt tous les trois dans l'émission.